Chapitre 21. Turin, Turambar. Rian, fille de Belegund, était l'épouse de Uor, fils de Galdor. Et elle était mariée depuis 2 mois lorsqu'il partit pour les Nirnaeth Arnoediad avec son frère Urin. Sans nouvelles de son seigneur, elle avait fui dans les terres sauvages. Mais elle reçut l'aide des elfes gris du Mithrim, et quand son fils Tuor vint au monde, ils le prirent sous leur aile. Alors Rian quitta le Ithlum, et lorsqu'elle se trouva devant le Aldn en Ndegin, elle s'y allongea et mourut. Morwen, fille de Baragund, était l'épouse de Urin, seigneur de Dor Lomin. Et ils avaient un fils, Turin, né dans l'année où Beren Ercamion avait rencontré Luthien dans la forêt de Neldoreth. Ils eurent aussi une fille qui se nommait Laleth, c'est-à-dire le rire, et son frère Turin l'aimait tendrement. Mais quand elle eut 3 ans, il vint au Ithlum une peste, portée par un vent délétère venu d'Angband, et elle mourut. Or, après les Nirnaeth Arnoediad, Morwen vivait encore au Dor Lomin, car Turin n'avait que 8 ans, et elle était encore grosse. C'étaient des jours funestes, car les Orientais installés au Ithlum n'avaient que du mépris pour ce qui restait du peuple de Hador et les tyrannisaient, s'emparaient de leurs terres et de leurs biens, et prenaient leurs enfants pour esclaves. Mais la dame du Dor Lomin était si belle et majestueuse que les Orientais la craignaient et n'osaient porter la main sur elle ou sur sa maisonnée. Et ils murmuraient entre eux qu'elle était dangereuse, que c'était une sorcière adonnée à la magie et de connivence avec les elfes. Or, elle était désormais indigente et privée de ressources, si ce n'est qu'elle recevait secrètement l'aide d'une parente de Urin nommée Aerin, que Broda, un Orientais, avait prise pour épouse. Et Morwen redoutait le jour où Turin lui serait enlevé pour être soumis en esclavage. Elle eut donc à cœur de l'envoyer secrètement autre part, en suppliant le roi Thingol de lui offrir asile. Car Beren, fils de Barahir, était le cousin de son père. De plus, il avait été l'ami de Urin avant que malheur lui arrive. Aussi, Morwen, à l'automne de l'année de la Lamentation, fit-elle passer Turin au-delà des montagnes avec 2 serviteurs désormais âgés, les priant de trouver un moyen d'entrer, s'il le pouvait, au royaume de Doriath. Ainsi fut scellé le sort de Turin, raconté au long dans le lait que l'on nomme Narnihin Urin, le conte des enfants de Urin, qui est le plus long des poèmes relatant les faits de cette époque. Cette histoire est ici racontée en bref, car elle est liée au sort des Silmarils et des elfes. Et on le surnomme le conte de la peine, car le récit en est affligeant et rend compte de terribles forfaits qui sont l'œuvre de Morgoth Baoglir. Tout au commencement de l'année, Morwen donna naissance à son enfant, la fille de Urin, et elle l'appela Nienor, c'est-à-dire le deuil. Cependant, Turin et ses compagnons, échappant à de graves dangers, finirent par atteindre les confins du Doriath. Et là, ils furent surpris par Beleg, dit l'Arc de Fer, capitaine des gardes frontaliers du roi Thingol, qui les emmena à Menegroth. Lors, Thingol reçut Turin à bras ouverts et le prit même sous sa protection en l'honneur de Urin l'Inflexible, car ses dispositions avaient changé envers les maisons des amis des elfes. Des messagers se rendirent alors au Ithlum afin de persuader Morwen de quitter le Dor Lomin et de rentrer avec eux au Doriath. Mais elle refusait toujours de quitter la maison où elle avait vécu avec Urin. Et quand les elfes s'en retournèrent, elle leur confia le home du dragon de Dor Lomin, l'héritage le plus précieux de la maison de Hador. Au Doriath, Turin devint beau et fort, mais il portait la marque du chagrin. Il vécut 9 ans dans les halles de Thingol, et sa peine s'allégea durant cette période, car des messagers se rendaient parfois au Ithlum et en rapportaient de meilleures nouvelles de Morwen et de Nienor. Mais il vint un jour où les messagers ne revinrent pas du nord, et Thingol n'en voulut point envoyer davantage. Lors, Turin fut rongé d'inquiétude pour sa mère et sa sœur, et plein de gravité, il se présenta devant le roi et demanda armure et épée. Et coiffé du home du dragon de Dor Lomin, il alla combattre sur les marches du Doriath, et devint le compagnon d'armes de Beleg Cuthalion. Et quand 3 années eurent passé, Thorin rentra à Menegroth, mais il revenait des terres sauvages, et son aspect était négligé, son harnais et sa tenue fort usés et défraîchis. Or il y avait au Doriath, du peuple des Nandor, haut placé à la cour du roi, un dénommé Saeros. Il y avait longtemps qu'il jalousait les honneurs accordés à Thorin en tant que fils adoptif de Thingol, et assis face à lui à table, il le moqua, disant « Si les hommes du Ithlum sont à ce point sauvages et rudes, que penser des femmes de ce pays? Courent-elles comme des biches revêtues de leur seule chevelure ?» Lors, Thorin, en grande colère, empoigna un vaisseau à boire et le lança au visage de Saeros, et il fut gravement blessé. Le lendemain, Saeros tomba sur lui à l'improviste alors qu'il quittait Menegroth pour regagner les marches. Mais Thorin le maîtrisa et l'envoya courir nu à travers la forêt, comme une bête traquée. Alors Saeros, fuyant éperdument, tomba dans un gouffre aux abords d'un torrent, et son corps se brisa sur un grand rocher à fleur d'eau. Mais d'autres arrivèrent, et virent ce qui s'était passé. Mablung était l'un d'eux, et il demanda à Thorin de rentrer avec lui à Menegroth pour entendre le jugement du roi et demander pardon. Mais Thorin, se jugeant désormais hors la loi et craignant d'être emprisonné, rejeta sa demande et s'éloigna brusquement. Et passant la ceinture de Méliane, il se réfugia dans les bois à l'ouest du Sirion. Là, il se joignit à une bande d'hommes sans feu ni lieu ni espérance, comme il s'en trouvait dans les solitudes en ces jours malheureux. Et leurs armes se retournaient contre tous ceux qui croisaient leur chemin, elfes, hommes ou orques. Mais une fois sa mésaventure entièrement contée et discutée devant Thingol, le roi pardonna à Thorin, jugeant qu'on lui avait fait outrage. Au même moment, Beleg, dit l'Arc de Fer, de retour des marches septentrionales, arrivait à Menegroth et demandait à le voir. Et Thingol s'adressa à Beleg, disant « Je suis en peine, Cuthalion, car j'ai traité le fils de Húrin comme mon fils, et il le restera toujours, à moins que Húrin en personne ne revienne des ombres pour le réclamer. » Je ne voudrais pas que l'on dise qu'il fut injustement chassé dans les solitudes, et c'est avec joie que je l'accueillerai de nouveau ici, car il était mon bien-aimé. » Et Beleg répondit, « J'irai à sa recherche jusqu'à ce que je le trouve, et je le ramènerai à Menegroth, si je le puis, car je l'aime aussi. » Lors, Beleg quitta Menegroth et parcourut le Beleriand à travers maints périls, cherchant en vain des nouvelles de Thorin. Mais Thorin demeura longtemps parmi les hors-la-loi, et il devint leur capitaine, et il se surnomma Nathan l'Outragé. Il vivait en cachette sur les terres boisées au sud du Teiglin, mais un an après la fuite de Thorin, Beleg tomba une nuit sur leur repère. Le hasard voulut que Thorin fût absent ce soir-là, et les hors-la-loi saisirent Beleg et le ligotèrent, et ils le traitèrent avec cruauté, car ils le prenaient pour un espion du roi du Doriath. Mais Thorin, de retour au camp, voyant ce qu'ils avaient fait, fut soudain au remords de tous leurs méfaits et leur brigandage. Et il relâcha Beleg, et leur amitié reprit. Et Thorin jura à l'avenir de renoncer au pillage et à la guerre, hormis contre les serviteurs d'Angband. Lors, Beleg fit savoir à Thorin que le roi Thingol lui avait pardonné, et il chercha à le persuader par tous les moyens possibles de rentrer avec lui au Doriath, lui disant combien sa force et sa bravoure faisaient défaut sur les marches septentrionales de leur royaume. « Les orques ont trouvé depuis peu un chemin hors de Tarnufuin, » dit-il, « et ils se sont frayés un passage à travers le col d'Anak. »« Je n'en ai pas souvenance, » dit Thorin. « Jamais nous ne sommes allés aussi loin des frontières, » dit Beleg, « et tu as pu voir au loin les pics des Crisaegrim et à l'est les sombres remparts des Golgoloth. » Anak se trouve entre les deux, au-dessus des hautes sources du Mindeb, une route ardue et périlleuse, et pourtant ils sont nombreux à l'emprunter désormais. Et le Dimbar, qui naguère était en paix, tombe peu à peu sous l'empire de la main noire, et les hommes de Bléthil sont inquiets. On a besoin de nous là-bas. Mais Thorin, le cœur gonflé d'orgueil, refusa le pardon du roi, et les paroles de Beleg ne surent lui faire changer d'avis. Pour sa part, Il pressa Bélec de demeurer avec lui dans le pays à l'ouest du Sirion, ce à quoi Bélec se refusa. Et il dit « Tu es dur, Turin, et entêté. À mon tour maintenant de l'être. Si vraiment tu souhaites avoir l'arc de fer à tes côtés, viens me chercher au Dimbar, car j'y retourne. » Le lendemain, Bélec quitta le campement, et Turin l'accompagna à un tir de flèche. Mais il ne dit mot. « Sont-ce donc là nos adieux, fils de Hurin ?» demanda Bélec. Alors Turin regarda vers l'ouest, et il vit au loin la haute couronne de Lamonrud. Et sans savoir ce qu'il attendait, il répondit « Tu as dit, cherche-moi au Dimbar, mais je te réponds, viens me trouver sur Lamonrud, sinon c'est bien notre dernier adieu. » Sur quoi ils se séparèrent, dans l'amitié, mais dans la tristesse. Or Bélec retourna aux mille cavernes, et il se présenta devant Fingol et Melian, et leur raconta tout ce qui s'était produit, hormis ce que les compagnons de Turin lui avaient fait subir. Alors Fingol soupira, et il dit « Que peut-il attendre de plus de ma part ?»« Donnez-moi la permission, seigneur, » répondit Bélec, « et je ferai tout pour le protéger et le guider. Et aucun homme n'accusera plus les elfes d'avoir la parole légère. Et je ne voudrais pas voir une si bonne nature aller à volo dans les terres sauvages. » Lors Fingol permit à Bélec d'en faire à son gré, et il dit « Bélec, Cuthalion, on ne compte plus les exploits qui t'ont valu ma reconnaissance, et le moindre n'est pas d'avoir retrouvé mon fils adoptif. À l'heure de notre séparation, dis quelle offrande tu demanderais de moi, et ne te sera pas refusée. » « Je demande donc une épée de valeur, » dit Bélec, « car les orques viennent maintenant trop près et en trop grand nombre pour que mon arc me suffise, et la lame dont je me sers ne peut rien contre leurs armures. » « Choisis entre toutes celles que je possède, » dit Fingol, « sauf Aranruth, qui est la mienne. » Alors Bélec choisit Anglakel, une épée de très grande valeur. Et elle se nommait ainsi parce qu'elle était faite d'un métal tombé du ciel, comme une étoile ardente, plus dure qu'aucune sorte de fer extrait de la terre. Une seule autre lame en terre du milieu lui était comparable. Cette lame n'entre pas dans ce récit, bien que forgée du même minerai par le même artisan. Et cet artisan était Éol, l'elfe sombre, qui prit Aredel, sœur de Turgon, pour épouse. Il avait offert Anglakel à Fingol en guise de redevance, bien qu'à contre-cœur, pour avoir droit de demeurer à Nan Elmoth. Mais il conserva sa jumelle, Anguirel, jusqu'à ce que son fils Maeglin la lui dérobât. Mais tandis que le roi Fingol présentait la garde d'Anglakel à Bélec, Melian observait la lame. Puis elle dit « Il y a dans cette épée une force malveillante. Le cœur noir du forgeron y réside encore. Elle n'aimera pas la main qu'elle servira et ne te souffrira pas longtemps. » « Je n'en ferai pas moins usage, aussi longtemps que je le pourrai, » dit Bélec. « J'ai pour toi un autre présent, Cuthalion, » dit Melian, « qui te sera d'un grand secours dans les terres sauvages et aussi à ceux que tu choisiras. » Et elle lui remit une provision de lembas, le pain de route des elfes, enveloppé dans des feuilles d'argent. Et les nœuds des ficelles qui les retenaient étaient scellés du sceau de la reine, un cachet de cire blanche, dont la forme était celle d'une unique fleur de Telperion. Car selon les coutumes de l'Eldalier, il revenait à la reine seule de conserver et d'offrir cette nourriture. Melian ne montra jamais plus de faveur à Turin que par ce cadeau, car les Eldar n'avaient jusqu'alors jamais permis aux hommes de consommer ce pain de route, et ne le firent que rarement par la suite. Lors, Bélec quitta Menegroth avec ses offrandes et retourna sur les marches septentrionales où il logeait dans des cases avec de nombreux amis. Puis, au Dimbar, les orques durent battre en retraite et Anglakel dégainé jubilait. Mais quand vinrent l'hiver et la fin des combats, Bélec manqua soudain à l'appel et ses compagnons ne le revirent plus. Or, quand Bélec avait quitté les Hors-la-Loi pour rentrer au Doriath, Turin les avait conduits à l'ouest, hors du Val du Sirion, car ils étaient là de cette vie mouvementée qui ne leur laissait aucun repos, toujours sur le qui-vive et dans la crainte d'être poursuivis, et il cherchait un refuge plus sûr. Et le hasard voulut qu'un soir, ils rencontrèrent trois nains qui les fuirent. Mais l'un d'entre eux qui restait à la traîne fut saisi au corps et jeté à terre, et l'un des compagnons lui prit son arc et décocha une flèche vers les autres alors qu'ils disparaissaient dans le crépuscule. Or le nain qu'ils avaient pris s'appelait Mime, et il supplia Turin de lui laisser la vie sauve, offrant pour sa rançon de les conduire à ses chambres secrètes que nul ne pouvait découvrir sans son aide. Alors Turin eut pitié de Mime et l'épargna, et il dit « Où est ta demeure ?» Lors Mime répondit « Loin au-dessus des terres est la maison de Mime, sur la grande colline. Amon-Rud est le nom qu'on lui donne maintenant, depuis que les elfes ont changé tous les noms. » Lors Turin resta silencieux et considéra longuement le nain. Enfin, il dit « Tu vas nous y conduire. » Le lendemain, ils se mirent en route, suivant Mime jusqu'à l'Amon-Rud. Or, cette colline se trouvait aux confins des terres hautes qui s'élevaient entre les veaux du Sirion et du Narog, et sa couronne se dressait loin au-dessus de la lande pierreuse. Mais gris et nu était son crâne raide, sauf pour le Sérégone qui tapissait la pierre d'écarlate. Et au moment où Turin approchait avec ses hommes, le soleil déclinant perça les nuages et darda ses rayons sur la couronne. Et le Sérégone était tout en fleurs. L'un d'eux dit alors « Il y a du sang sur le sommet !» Mais Mime les mena par des sentiers secrets le long des pentes abruptes de l'Amon-Rud. Et à l'entrée de sa grotte, il s'inclina devant Turin, disant « Entre à Bar-Endanwed, la maison de la rançon, car tel sera son nom. » Et il arriva à présent un autre nain venu l'accueillir avec de la lumière, et ils échangèrent quelques mots avant de passer vivement dans l'obscurité de la grotte. Mais Turin les suivit, et il parvint enfin à une salle loin à l'intérieur, éclairée de faibles lampes suspendues à des chaînes. Là, il trouva Mime agenouillé près d'une couche de pierre contre le mur, et il s'arrachait la barbe et gémissait, répétant sans cesse le même nom. Et sur la couche, gisait un troisième nain. Mais Turin s'approcha de Mime et lui offrit son aide. Lors Mime leva les yeux vers lui et dit « Il n'y a pas d'aide que tu puisses offrir, car voici Kim, mon fils, et il est mort, percé d'une flèche. Il est mort au couchant, Ibun, mon fils, me l'a dit. » Alors la pitié gagna le cœur de Turin, et il dit à Mime « Hélas, je rappellerai cette flèche si j'en avais le pouvoir. Bar-Endanwed est bien à présent le nom de cette maison, et si jamais je deviens riche, « je te paierai rançon d'or pour la mort de ton fils, en gage de mon chagrin, bien que cela ne puisse redonner joie à ton cœur. » Lors Mime se leva et considéra longuement Turin. « Je t'entends bien, » dit-il. « Tu parles comme un seigneur nain d'autrefois, et cela m'étonne. Mon cœur à présent est apaisé s'il n'est pas joyeux, et tu pourras rester dans ma maison si tu le souhaites, car je paierai ma rançon. » Ainsi commença le séjour de Turin dans le repère secret de Mime sur l'Amon-Rud. Et il eut coutume d'arpenter la pelouse devant l'ouverture de la grotte, regardant à l'est, à l'ouest et au nord. Au nord, il discernait le tapis vert de la forêt de Brethil qui grimpait tout autour de l'Amon-Obel en son milieu. Et encore et toujours, ses yeux étaient attirés de ce côté, sans qu'il sût pourquoi. Car son cœur regardait plutôt au nord-ouest, où, à des lieux, en lisière du ciel, il croyait entrevoir les montagnes de l'ombre, les remparts de son pays natal. Mais le soir, Turin regardait vers l'ouest, dans le couchant, tandis que le soleil plongeait écarlate dans les lointains brumeux au-dessus des côtes, et que le val du Narog s'enténébrait dans l'entre-deux. Durant ce séjour, Turin s'entretint souvent avec Mime. Assis seul avec lui, il prêtait l'oreille à son savoir et au récit de sa vie. Car Mime descendait de ces nains bannis autrefois de leur grande cité de l'Est, et qui, bien avant le retour de Morgoth, s'étaient exilés vers l'Ouest jusqu'en Beleriand. Mais ils avaient perdu de leur stature et de leur talent à la forge, et ils menaient une vie clandestine, marchant les épaules courbées et d'un pas furtif. Les elfes du Beleriand, avant la venue des nains de Nogrod et de Bélégost, au-delà des montagnes, ne savait pas ce qu'étaient ces êtres, et il les chassait et les tuait. Mais plus tard, ils les laissèrent en paix, et ils reçurent le nom de Noegif Nibin, les petits nains en langue sindarine. Ils n'aimaient qu'eux-mêmes, et nuls autres, et s'ils craignaient et détestaient les orques, ils ne haïssaient pas moins les Eldar, et à plus forte raison, les exilés. Car les Noldor, disaient-ils, avaient volé leurs terres et leurs maisons. Bien avant que le roi Finrod Felagund eût traversé la mer, ce furent les petits nains qui découvrirent les cavernes de Nargothrond et entreprirent d'y creuser. Et sous la couronne d'Amonrud, la colline chauve, leurs mains lentes avaient excavé et approfondi les grottes durant les longues années qu'ils y étaient restés, sans être inquiétés par les elfes gris des forêts. Mais voici qu'ils s'étaient fait rares en terre du milieu, et ils avaient fini par s'éteindre, tous sauf Mim et ses deux fils. Et Mim était vieux, même aux yeux des nains, vieux et oublié. Et dans ces halles, les forges étaient silencieuses et les haches couvertes de rouille, et leur nom n'était plus connu que dans les anciens contes du Doriath et de Nargothrond. Mais à l'approche de la mi-hiver, le nord amena plus de neige que les hors-la-loi n'en avaient connu dans les vallées riveraines, et Lamonrud fut enseveli sous un épais couvert. Et on disait que les hivers devenaient plus rudes à mesure que le pouvoir d'Angband grandissait. Alors seuls les plus hardis osèrent s'aventurer au dehors. Certains tombèrent malades, et tous furent tenaillés par la faim. Mais dans la pénombre d'un crépuscule d'hiver, apparut soudain parmi eux un homme, à ce qu'il semblait, massif et de forte corpulence, tout de blanc vêtu dans son manteau à capuchon. Et il s'approcha du feu sans un mot. Voyant les hommes bondir de surprise, il rit et rejeta sa capuche, et sous son ample pèlerine, il transportait un grand ballot. Et à la lueur du feu, Turin contempla de nouveau le visage de Beleg Cuthalion. Ainsi Beleg revint-il auprès de Turin une fois encore, et ce furent de joyeuses retrouvailles. Des marches du Dimbar, il rapportait le haume du dragon de Dorlomine, croyant ainsi pouvoir exalter les pensées de Turin au-delà de sa condition de petit chef de bande parmi les terres sauvages. Mais Turin se refusait toujours à rentrer au Doriath. Et Beleg, déférant à l'amour mais non à la sagesse, resta à ses côtés et ne s'en retourna pas, et il se dépensa beaucoup cet hiver-là pour le bien des compagnons de Turin. Il soigna les blessés et les malades et leur donna du lembas offert par Méliane. Et ils guérirent vite, car si les talents et le savoir des elfes gris étaient moindres que ceux des exilés du Valinor, pour ce qui tenait de la vie en terre du milieu, ils étaient dépositaires d'une sagesse inaccessible aux hommes. Et comme Beleg était fort et endurant, clairvoyant autant d'esprit que de vue, il gagna bientôt le respect des hors-la-loi. Mais la haine de Mim à l'égard de cet elfe qui s'était insinué à Bar-en-Danwed ne cessait de croître. Et il s'asseyait avec Ibun, son fils, dans les plus sombres replis de sa maison, sans parler à personne. Mais Turin ne prêtait plus guère attention aux nains. Et une fois l'hiver passé et le printemps venu, ils durent s'occuper de plus graves affaires. Qui de nos jours saurait pénétrer les desseins de Morgoth et saisir sa pensée? Qui saurait en mesurer la portée pour celui qui fut Melkor, puissant parmi les Ainur du Grand Champ, et qui à présent siégeait dans le Nord, seigneur sombre au trône de ténèbres, pesant dans sa malignité toutes les nouvelles qui lui parvenaient, et plus averti des faits et des buts de ses ennemis que ne pouvaient le craindre même les plus sages d'entre eux, hormis la reine Méliane. Souvent la pensée de Morgoth se portait vers elle, et là, s'achoppait. Et voilà que la puissance d'Angband se mettait de nouveau en branle, et comme les longs doigts d'une main tâtonnante, les avant-coureurs de ses armées filtraient en Beleriand pour reconnaître le terrain. Ils vinrent par Anak et prirent le Dimbar, puis toutes les marches septentrionales du Doriath. Ils descendirent l'ancienne route qui empruntait le long défilé du Sirion, passé l'île où la Minas Tirith de Finrod s'était dressée, et à travers les terres entre la rivière Maldwin et le Sirion, puis à la lisière de Brethil jusqu'au passage du Teiglin. De là, La route se poursuivait sur la plaine gardée. Mais les orques ne s'aventuraient pas encore loin sur cette route, car à présent vivait là, dans les terres sauvages, une terreur qui demeurait cachée. Et sur la colline écarlate, des yeux attentifs les observaient, dont personne ne leur avait rien dit. Car Turin avait de nouveau coiffé le home de Hador, et partout en Beleriand, le bruit courait, sous la ramée, sur le ruisseau et par les trouées des collines, que l'arc et le home qui étaient tombés au Dimbar s'étaient de nouveau levés contre tout espoir. Alors nombre de ceux qui étaient sans chef, démunis mais non désemparés, reprirent courage, et ils vinrent trouver les deux capitaines. Dor Cuarthol, le pays de l'arc et du home, vint alors à désigner toute cette région entre le Teiglin et la marche occidentale du Doriath. Et Turin se donna un nouveau nom, Gorthol, le home de l'effroi, et il retrouva tout son allant. À Menegroth et dans les profondes halles de Nargothrond, et même au royaume caché de Gondolin, les exploits désormais fameux des deux capitaines s'ébruitèrent. Et Angband aussi les connaissait. Alors Morgoth se prit à rire, car à travers le home du dragon, le fils de Húrin se révélait de nouveau à lui. Et avant peu, Lamonrud fut cerné d'espions. Au déclin de l'année, Mim le nain et Ibun son fils quittèrent Balendanwed afin de faire provision de racines en prévision de l'hiver. Et ils furent capturés par les orques au milieu des terres sauvages. Alors Mim, pour la seconde fois, promit de conduire ses ravisseurs par les chemins secrets menant à sa demeure sur Lamonrud. Il chercha toutefois à retarder l'aboutissement de sa promesse et réclama que Gorthol ne fût pas tué. Alors le capitaine des orques se mit à rire et il dit à Mim,
« Pour sûr, Turin, fils de Húrin, ne sera pas tué. »
Ainsi fut trahi Bar-Endanwed, car les orques l'assaillirent une nuit à l'improviste, guidés par Mim. Bon nombre des compagnons de Turin y furent massacrés dans leur sommeil. Mais quelques-uns fuirent par un escalier intérieur qui débouchait au sommet de la colline, et là, ils combattirent jusqu'à la mort, et leur sang se déversa sur le Célégone qui tapissait la pierre. Mais Turin fut pris dans un filet alors qu'il croisait le fer et s'y empêtra, et il fut maîtrisé, puis emmené. Et à la fin, quand tout redevint silencieux, Mim se glissa hors des ombres de sa demeure, et à l'heure où le soleil s'élevait au-dessus des brumes du Sirion, il se tint parmi les tombés au sommet de la colline. Mais il s'aperçut que tous ceux qui gisaient là n'étaient pas morts, car l'un d'eux rencontra son regard, et c'étaient les yeux de l'elfe Beleg. Puis, avec une haine longtemps étouffée, il s'avança vers lui et extirpa l'épée Anglakel qui gisait sous le corps d'un autre. Mais Beleg se redressa avec peine, lui arracha l'épée et voulut l'embrocher. Alors Mim, hurlant de terreur, s'enfuit du haut de la colline, et Beleg cria après lui,
« La vengeance de la maison de Hador te trouvera un jour !»
Or Beleg était grièvement blessé, mais il était grand parmi les elfes de la terre du milieu. De plus, c'était un maître de la guérison. Partant, il ne mourut pas, mais reprit lentement des forces, et il chercha en vain parmi les corps celui de Turin pour l'enterrer. Mais il ne le trouva point. Alors il sut que le fils de Húrin était encore vivant, et Kangband l'avait réclamé. Sans grand espoir, Beleg quitta Lamonrud et prit vers le nord, vers les passages du Teiglin, suivant la piste des orques. Et il franchit le Brithiac et traversa le Dimbar en dirigeant ses pas vers le col d'Anak. Et à présent, il était bien près de les rattraper, car il voyageait sans dormir, tandis qu'eux ne se hâtaient pas de regagner le nord, chassant ici et là, en cours de route, sans craindre de poursuite. Et pas même les effroyables pièges de Tar Nufuin ne détournèrent Beleg de leur piste, car jamais la terre du milieu ne vit plus habile traqueur que lui. Mais une nuit qu'il traversait cette forêt maléfique, il aperçut une forme endormie au pied d'un grand arbre mort. Et Beleg, s'arrêtant auprès du dormeur, vit que c'était un elfe. Alors il lui parla, lui donna du lembas, et lui demanda quel coup du sort l'avait conduit en ce terrible endroit. Et l'elfe dit s'appeler Gwyndor, fils de Gwilin. Beleg le regarda avec consternation, car Gwyndor n'était plus que l'ombre voûtée et apeurée de ce qu'il avait été quand, au Nirnaeth Arnoediad, ce noble seigneur de Nargothrond avait chevauché avec témérité jusqu'aux portes d'Angband où il s'était fait prendre. Car Morgoth mettait rarement à mort ceux des Noldor qu'il capturait, en raison de leur talent à la forge et à la mine pour trouver métaux et pierres précieuses. Gwyndor n'avait donc pas été tué, mais astreint au labeur dans les mines du Nord. Par des passages secrets connus d'eux seuls, les elfes de la mine arrivaient parfois à s'échapper. Et c'est ainsi que Beleg le retrouva, épuisé et désorienté, dans les dédales de Tarnufuin. Et Gwyndor lui raconta que, comme il gisait tapis sous les arbres, il avait vu passer une grande compagnie d'orques qui allait vers le nord, escortée par des loups. Et il y avait parmi eux un homme dont les mains étaient enchaînées et qu'il faisait avancer à coups de fouet. « Il était fort grand, » dit Gwyndor, « comme le sont les hommes des collines brumeuses du Ithlom. » Alors Beleg lui dit à son tour ce qui l'amenait à Tarnufuin. Et Gwyndor tenta de le détourner de sa quête, disant qu'il ne ferait qu'accompagner Turin dans les tourments qui l'attendaient. Mais Beleg refusait d'abandonner Turin. Puis, lui-même au désespoir, il ramena l'espérance dans le cœur de Gwyndor, et ils reprirent la route ensemble, suivant les orques jusqu'à l'orée de la forêt, sur les hauteurs qui plongeaient vers les mornes dunes d'Anfauglith. Là, à la tombée du jour, dans la désolation d'un ravin en vue des cimes du Thangorodrim, les orques montèrent leur camp, postant des loups en guise de sentinelles, et s'adonnèrent à leurs beuveries et leurs amusements. Un violent orage s'annonçait à l'ouest, et la foudre étincelait au loin sur les montagnes ombreuses, tandis que Beleg et Gwyndor se faufilaient vers le ravin. Lorsque tout le camp fut endormi, Beleg se saisit de son arc et abattit les loups sentinelles dans l'obscurité, un par un et en silence. Puis, au prix d'un grave péril, ils pénétrèrent dans le camp et trouvèrent Turin attaché à un vieil arbre desséché, entrave aux pieds et aux poings, et tout autour de lui, des couteaux qu'on lui avait lancés étaient fichés dans le tronc. Mais il était inconscient, tombé d'épuisement en un profond sommeil. Alors Beleg et Gwyndor coupèrent les liens qui le retenaient, et ils le soulevèrent et le transportèrent hors du ravin. Mais ils ne purent le porter plus loin qu'un fourré d'épines un peu plus haut. Puis, ils l'allongèrent, et à présent l'orage était très proche. Beleg tira son épée Andglakel afin de libérer Turin de ses entraves. Mais le destin fut plus fort ce jour-là, car la lame glissa au moment de couper les chaînes et entama le pied de Turin. Alors celui-ci s'éveilla soudain dans un éclair de rage et d'affolement, et à la vue de la lame nue et de cette forme penchée sur lui, il crut que des orques étaient revenus le tourmenter et se redressa avec un grand cri. Et luttant dans l'obscurité, il saisit Anglakel et tua Beleg Cuthalion, qu'il prenait pour un ennemi. Mais comme il se tenait là, se découvrant libre et prêt à vendre chèrement sa vie contre des ennemis imaginaires, la foudre illumina le ciel, et dans sa lumière, son regard se porta sur le visage de Beleg. Lord Turin resta pétrifié et muet, fixant cette mort atroce, sachant ce qu'il avait fait. Et sa figure était si terrible à voir dans le clignotement des éclairs que Gwyndor se recroquevilla contre le sol et n'osa plus lever les yeux. Or, dans le ravin en contrebas, les orques étaient désormais alertés et tout le campement était en émoi, car ils craignaient le tonnerre venu de l'ouest, persuadés qu'il était dirigé contre eux par leurs grands ennemis au-delà de la mer. Alors un vent se leva, de fortes pluies se mirent à tomber, et des torrents d'eau déferlèrent depuis les hauteurs de Tarnufuin. Et malgré les cris et les avertissements de Gwyndor contre l'extrême péril qui les menaçait, Turin ne répondait pas, mais demeurait assis, immobile et les yeux secs dans la tempête, près du corps de Beleg Cuthalion. Au matin, l'orage s'était déplacé à l'est sur Lothlan, et le soleil d'automne se leva, chaud et éclatant. Mais les orques, ne doutant pas que Turin était alors bien loin et que la pluie avait lavé toute trace de sa fuite, se hâtèrent de lever le camp sans poursuivre les recherches. Et d'où ils se trouvaient, Gwyndor vit leur convoi s'éloigner sur les sables fumants d'Anfauglith. Ainsi, ils rentrèrent auprès de Morgoth les mains vides, laissant derrière eux le fils de Húrin, éperdu et hagard, sur les pentes du Tarnufuin, portant un fardeau plus lourd que leur chaîne. Enfin, Gwyndor secoua Thurin afin qu'il l'aide à enterrer Beleg, et Thurin se leva tel un somnambule. Et ensemble, ils étendirent Beleg dans une fosse peu profonde et déposèrent à son côté son grand arc, Belthronding, fait d'un bois d'if noir. Mais Gwyndor emporta la terrible épée Anglakel, disant qu'il valait mieux qu'elle tire vengeance des serviteurs de Morgoth plutôt que de Gésir en terre. Et il prit aussi le lembas de Méliane afin qu'il les sustentât dans les terres sauvages. Ainsi périt Beleg, dit l'Arc de Fer, le plus fidèle des amis, le plus habile de ceux qui trouvaient asile dans les forêts du Beleriand aux jours anciens, par la main de celui qu'il aimait le plus. Et cette douleur fut gravée sur le visage de Thurin et ne s'effaça jamais. Mais le courage et la vigueur étaient revenus chez l'elfe de Nargothrond, et quittant Tarnufuin, il emmena Thurin au loin. Pas une fois Thurin ne parla, alors qu'ils foulaient ensemble de longs et pénibles chemins. Et ils marchaient comme qui n'a ni désir ni dessein, tandis que l'année déclinait et que l'hiver gagnait les terres septentrionales. Mais Gwyndor était toujours à ses côtés pour le protéger et le guider. Et leurs pas les menèrent ainsi vers l'ouest, passé le Sirion, et enfin l'Eithel Ivrin, les sources du Narog au pied des montagnes de l'ombre. Là, Gwyndor s'adressa à Thurin, disant « Réveille-toi, Thurin, fils de Húrin Thalion. Sur le lac d'Ivrin perle un rire infini. Cette eau se nourrit de fontaines cristallines et intarissables, et elle est gardée de toute souillure par Ulmo, le seigneur des eaux, qui cisela sa beauté dans l'ancien temps. » Lors Thurin s'agenouilla et but de cette eau. Et soudain il se jeta à terre, et ses larmes furent enfin libérées, et il fut guéri de sa folie. Là, il composa un chant pour Beleg, qu'il nomma Laelku Beleg, le chant du grand arc, le chantant à voix haute sans craindre le danger. Et Gwyndor déposa l'épée Anglakel entre ses mains, et Thurin sut combien elle était lourde et puissante, et quel grand pouvoir elle recelait. Mais sa lame était noire et terne, et son fil émoussé. Puis Gwyndor dit « Voici une étrange lame, différente de toutes celles que j'ai vues en terre du milieu. Elle pleure Beleg tout comme toi. Mais console-toi, car je rentre à Nargothrond de la maison de Finarfin, et tu viendras avec moi, et tu pourras guérir et revivre. » « Qui es-tu ? » demanda Thurin. « Un elfe errant, un esclave évadé, que Beleg a croisé et consolé, » répondit Gwyndor. « Pourtant j'étais autrefois Gwyndor, fils de Gwilin, un seigneur de Nargothrond, avant de partir pour les Nirnaeth Arnaediad et d'être asservi à Angband. Dans ce cas, as-tu rencontré Húrin, fils de Galdor, le guerrier du Dorlomine ? » dit Thurin. « Je ne l'ai pas vu, » dit Gwyndor. Mais de lui la rumeur court à Angband qu'il continue de défier Morgoth, et Morgoth aurait jeté une malédiction sur lui et sur toute sa famille. « Je le crois sans peine, » dit Thurin. Alors ils se levèrent, et quittant Eithel Ivrin, ils suivirent les berges du Narog vers le sud, jusqu'à ce qu'ils fussent pris par des éclaireurs elfes et emmenés comme prisonniers à la forteresse secrète. C'est ainsi que Thurin entra à Nargothrond. Au début, Gwyndor ne fut pas reconnu par les siens. Jeune et vigoureux à son départ, il rentrait à présent avec l'apparence des plus âgés des hommes mortels, à cause des tourments et du labeur qu'il avait enduré. Mais Finduilas, fille du roi Orodreth, sut qui il était et lui fit bon accueil, car elle l'avait aimé avant les Nirnaeth, et Gwyndor était tellement épris de sa beauté qu'il la surnommait Fail Ivrin, ce qui signifie le reflet du soleil sur les fontaines d'Ivrin. Par égard pour Gwyndor, Thurin fut admis à Nargothrond au même titre que lui, et on le traita avec honneur. Mais quand Gwyndor voulut annoncer son nom, Thurin le coupa et dit « Je suis Agarwen, fils d'Umarth, », c'est-à-dire l'ensanglanté, fils de mauvais sort, un chasseur des bois. Et les elfes de Nargothrond ne lui firent plus de questions. Turin ne tarda pas à gagner la faveur d'Olodreth, et il conquit presque tous les cœurs de Nargothrond. Car il était jeune, venant tout juste d'atteindre l'âge d'homme, et d'apparence, il se signalait plutôt comme le fils de Morwen et les Dwen, sombre de cheveux et clair de teint, les yeux gris et une beauté de visage qui n'avait pas son pareil parmi les hommes mortels aux jours anciens. Son langage et sa prestance étaient ceux de l'ancien royaume de Doriath. Et même chez les elfes, on pouvait le croire de l'une des grandes maisons des Noldor, si bien que beaucoup le surnommaient Adanedel, l'homme elfe. Les habiles forgerons de Nargothrond refirent pour lui l'épée Anglakel, et quoiqu'elle demeurât noire, son fil brillait désormais d'une pâle flamme. Alors Turin la nomma Gurthang, le fer de mort. Sa maestra et ses prouesses guerrières sur les confins de la plaine gardée lui valurent le surnom de Mormegil, le noir épée. Et chez les elfes, on disait, rien ne peut tuer le Mormegil sinon une malchance ou un trait maléfique venu de loin. Aussi lui offrirent-ils un haubert de confection naine pour le protéger. Et Turin, descendu aux salles d'armes dans une humeur sombre, y avait pris un masque de nain tout recouvert d'or qu'il revêtait chaque fois qu'il partait au combat. Et ses ennemis fuyaient à sa vue. Alors le cœur de Finduilas se détourna de Gwyndor, et son amour se porta vers Turin, bien malgré elle. Mais Turin n'observa pas ce changement. Déchiré par ses sentiments, Finduilas prit une humeur chagrine, et elle devint pâle et silencieuse. Mais Gwyndor ruminait de sombres pensées, et un jour il alla trouver Finduilas, disant « Fille de la maison de Finalfin, ne laissons nul grief s'installer entre nous. Car si Morgoth a fait de ma vie un champ de ruines, je peux encore t'aimer. Va où l'amour te mène, mais prends garde. Il ne convient pas que les aînés des enfants d'Ilúvatar épousent les jeunes. Et il n'est pas sage non plus, car ils sont éphémères et bientôt trépassent, de nous laisser en veuvage tant que le monde durera. Pas plus que le sort ne le permettra, sauf rare exception, pour satisfaire à un impérieux destin que nous n'entrevoyons pas. Mais cet homme-ci n'est pas Beren. Un destin plane sur lui, comme le peuvent voir les plus clairvoyants. Mais c'est un destin funeste, ne t'y mêle pas. Et si tu le fais, ton amour te trahira et te conduira à l'amertume et à la mort. Car écoute-moi bien, s'il est en effet Agarwaen, fils d'Umarth, son véritable nom est Turin, fils de Húrin, que Morgoth détient à Angband, et il a maudit toute sa famille. Ne doute pas de la puissance de Morgoth Baoglir. N'en portais-je pas la cicatrice ? Lord Finduilas resta longtemps pensive, mais enfin elle eut pour seule réponse « Turin, fils de Húrin, ne m'aime pas et ne m'aimera jamais. » Or, quand Turin apprit de Finduilas ce qui s'était passé, il se mit en colère et il dit à Gwyndor « Je te regarde avec amour pour m'avoir sauvé et protégé. Mais là, tu m'as fait du tort, mon ami, en trahissant mon véritable nom et en appelant sur moi mon destin, duquel j'essaye de me cacher. » Et Gwyndor répondit, « C'est en toi que ton destin repose, non pas en ton nom. » Quand il apprit que le Mormegil était en vérité le fils de Húrin Thalion, Orodreth multiplia les honneurs envers lui, et Turin devint puissant parmi les gens de Nargothrond. Or, Turin n'était point partisan de leur méthode de combat, l'embuscade, le secret, la flèche traîtresse. Il regrettait les coups d'éclat et la bataille à découvert, et ses conseils aux yeux du roi pesaient toujours davantage. Dès lors, les elfes de Nargothrond troquèrent le secret pour le combat ouvert. De grandes réserves d'armes furent constituées, et les Noldor, à l'instigation de Turin, jetèrent un grand pont au-dessus du Narog, devant les portes de Felagund, afin d'accélérer le passage des armées. Alors les serviteurs d'Angband furent chassés de toutes les terres, comprises entre le Narog et le Sirion à l'est et à l'ouest jusqu'au Nenning et à la désolation du Falas. Et Gwyndor s'élevait toujours contre Turin au conseil du roi, tenant sa politique pour malheureuse, mais personne ne l'écoutait plus, et il tomba en disgrâce. Car sa vigueur était passée, comme son ardeur au combat. Ainsi, Nargothrond fut révélé au courroux et à la haine de Morgoth. Mais à la prière de Turin, on continuait de taire son nom. Et si la rumeur de ses exploits parvint aux Doriath et aux oreilles de Fingol, il n'était jamais question que du noir épée de Nargothrond. En ce temps de répit et d'espoir, la puissance de Morgoth étant tenue en échec à l'ouest du Sirion grâce aux exploits de Mormegil, Morwen résolut enfin de fuir le Dorlomin avec sa fille Nienor et hasarda le long voyage jusqu'aux Halles de Thingol. Une nouvelle épreuve l'attendait là-bas, car elle découvrit que Turin n'y était plus. Et le Doriath n'en avait eu aucune nouvelle depuis que le Home du Dragon avait disparu des terres à l'ouest du Sirion. Mais Morwen resta au Doriath avec Nienor, où, en hôte de Fingol et Melian, elles furent traitées avec honneur. Or, au printemps de l'année, lorsque 495 ans eurent passé depuis le lever de la lune, il se présenta à Nargothrond deux elfes ayant pour nom Gelmir et Arminas. Du peuple d'Angrod, ils vivaient dans le sud, auprès de Círdan, le charpentier de Nef, depuis la Dagor Bragolac. De leur long voyage, ils rapportèrent qu'un grand concours d'orques et de créatures maléfiques s'était réuni sous les contreforts des Eredwethrin et dans la passe du Sirion. Et ils dirent qu'Ulmo avait visité Círdan, mettant en garde contre un grave péril approchant de Nargothrond.
« Entendez les paroles du Seigneur des Eaux. Ainsi parla-t-il à Círdan le charpentier de Nef. Le mal du Nord a souillé les sources du Sirion. » Et mon pouvoir se retire des doigts des eaux courantes. Mais il y a pire encore à venir. Mande donc au seigneur de Nargothrond ce qui suit. Ferme les portes de ta forteresse. Il ne va point au dehors. Jette les pierres de ton orgueil dans le tumulte de la rivière, que le mal qui va rampant ne puisse trouver tes portes.
Orodreth fut troublé par les sombres paroles des messagers. Mais Turin ne s'avisa pas d'écouter ses conseils une seule seconde, et encore moins de détruire le grand pont. Car il était fier désormais, et impérieux, voulant disposer de tout comme il l'entendait. Peu de temps après, Andir, seigneur de Brethil, fut tué, car les orques avaient envahi ses terres, et Andir leur livra bataille. Mais les hommes de Brethil furent battus et contraints de retraiter dans leur forêt. Et à l'automne de cette même année, jugeant que l'heure était venue, Morgoth lâcha sur les gens du Narog la grande armée qu'il avait préparée de longue date. Et Glaurung l'Uruloki traversa Anfauglith et pénétra dans les vallées septentrionales du Sirion, où il causa de grands ravages. Il souilla Ethel Ivrin à l'ombre des Eredwethrin, puis il passa dans le royaume de Nargothrond et incendia Talath Dirnen, la plaine gardée, entre le Narog et le Teiglin. Alors les guerriers de Nargothrond s'avancèrent, et la figure de Turin était grande et terrible ce jour-là, exaltant les courages, tandis qu'il chevauchait à main droite d'Orodreth. Mais l'armée de Morgoth était beaucoup plus nombreuse qu'aucun des éclaireurs ne l'avait rapportée, et seul Turin, sous la protection de son masque de nain, pouvait résister à l'approche de Glaurung. Aussi les elfes durent-ils battre en retraite, pressés par les orques vers le champ de Tumhalad, entre le Ginglith et le Narog, où ils furent acculés. Ce jour-là, toute la superbe de Nargothrond s'évanouit avec son armée, et Orodreth tomba au front de la bataille. Et Gwyndor, fils de Gwilin, fut blessé à mort. Mais Turin vint à son secours, et tous fuirent devant lui. Et il emporta Gwyndor hors de la débâcle, trouva refuge dans un bois, et le déposa sur l'herbe. Alors Gwyndor dit à Turin,
« Secours contre secours, nous voilà quittes. Mais mon action a été funeste, et la tienne est vaine, car mon corps ne peut guérir de pareils ravages, et je dois quitter la terre du milieu. Et bien que je t'aime, fils de Húrin, je maudis le jour où je t'ai enlevé aux orques. Sans tes prouesses et ton orgueil, j'aurai encore la vie et l'amour, et Nargothrond tiendrait encore un temps. » « Maintenant, si tu m'aimes, laisse-moi. Hâte-toi vers Nargothrond et sauve Finduilas.
Et ceci te dis-je enfin, elle seule se tient entre toi et ton destin. Si tu oublies Finduilas, lui ne t'oubliera pas. Adieu. »
Lors, Turin fondit sur Nargothrond, ralliant tous les soldats en déroute qu'il rencontrait en chemin. Et cependant, un grand vent faisait tomber les feuilles des arbres, car l'automne cédait le pas à un terrible hiver. Mais la horde des orques et Glaurung le dragon l'avaient devancé, et ils surgirent brusquement avant que l'issue de la bataille au champ de Tumhalad fût connue de la garde retenue dans la cité. Ce jour-là, le pont sur le Narog se révéla néfaste, car c'était un ouvrage colossal, solidement bâti, qui ne pouvait rapidement être détruit, de sorte que l'ennemi franchit aisément les eaux profondes. Et Glaurung déchaîna son feu à pleine puissance contre les portes de Felagund, qu'il renversa, et il pénétra à l'intérieur. Et quand Turin arriva, déjà l'horrible saccage de Nargothrond était presque achevé. Les orques avaient tué ou chassé tous ceux encore en armes, et ils étaient à mettre à sac les grandes salles et les chambres, et à piller et à détruire. Mais celles des femmes et des filles qui n'avaient pas péri par le fer ou le feu avaient été rassemblées sur l'esplanade devant les portes pour être emmenées et soumises à l'esclavage de Morgoth. Turin découvrit cette scène de ruine et de malheur, et nul ne put résister à sa furie ou ne l'osa. Mais il terrassa indifféremment tous ceux qu'il trouva sur son passage, et il franchit le pont, s'acheminant vers les captives à grands coups d'épée. Et dès lors, il se tenait seul, car les rares qu'il avait suivis jusque-là s'étaient enfuis. Mais à cet instant, Glaurung parut sous les portes béantes et se coucha derrière Turin, entre lui et le pont. Soudain, il parla, par la voix de l'esprit maléfique qui était en lui, et il dit « Salut à toi, fils de Húrin. Heureuse rencontre !» Lors, Turin se retourna vivement et s'avança contre lui, et les bords de son épée Gurthang se mirent à flamboyer. Mais Glaurung retint ses flammes, ouvrit grand ses yeux de serpent et les fixa sur Turin. Celui-ci, un pas vide, soutint son regard en levant l'épée, et il tomba aussitôt sous le charme inéluctable des yeux sans paupières du dragon, privé de tout mouvement. Il resta longtemps ainsi, tel une statue de pierre, et dès lors, il n'y avait plus que deux, postés en silence devant les portes de Nargothrond. Mais Glaurung parla de nouveau, et le railla, disant « Ta conduite en tout a été mauvaise, fils de Húrin. Ingrat envers ton père nourricier, hors la loi, assassin de ton propre ami, voleur d'amour, usurpateur de Nargothrond, capitaine imprudent et déserteur de tes proches. C'est en esclave que vivent ta mère et sa sœur au Dorlomin, dans la misère et le besoin. Tu es mis comme un prince, alors qu'elles vont en haillons, et elles languissent de te voir. Mais tu n'en as que faire. Heureux serait ton père d'apprendre qu'il a un tel fils, et il l'apprendra. » Et Turin, sous l'emprise du sortilège de Glaurung, écouta ces paroles avec attention, et se vit comme en un miroir déformé par la malveillance, et il détestait ce qu'il voyait. Et tandis qu'il était ainsi retenu par les yeux de Glaurung, l'esprit tourmenté, sans pouvoir bouger, les orques firent avancer le groupe de captives qui passèrent devant Turin pour atteindre le pont. Parmi elles se trouvait Finduilas, et celle-ci l'appela maintes fois. Mais ses cris, tout comme la plainte des prisonnières, s'étaient déjà évanouis sur la route du nord au moment où Glaurung délivra Turin, qui n'avait pu se boucher les oreilles et faire taire cette voix qui le hanta longtemps après. Soudain, Glaurung détourna son regard, puis attendit. Et Turin remua lentement, comme qui s'arrache à un rêve affreux. Reprenant alors ses sens, il s'élança contre le dragon avec un cri. Mais Glaurung se mit à rire, disant « Si tu veux mourir, je te tuerai volontiers. Mais cela ne sera pas d'un grand secours pour Morwen et Nienor. Tu es resté de marbre au cri de la femme elfe. Renieras-tu aussi les liens du sang ?» Mais Turin éleva son bras, épée au poing, et voulut frapper le dragon entre les deux yeux. Et Glaurung déplia violemment son corps, se dressant de toute sa hauteur, et il dit
« Nenni, au moins tu es vaillant, plus qu'aucun autre que j'ai vu. Et ils mentent ceux qui disent que nous n'aurons pas le courage de nos ennemis. Vois donc, je t'offre la liberté. Va rejoindre tes proches si tu le peux. Va-t'en d'ici. Et s'il reste un elfe ou un homme pour faire le récit de cette époque, ils te couvriront de mépris si tu dédaignes cette faveur. »
Lors, Turin, encore sous le charme des yeux du dragon, comme s'il traitait avec un ennemi capable de pitié, crut les paroles de Glaurung. Et il tourna les talons et courut sur le pont. Mais comme il s'éloignait, Glaurung lui lança d'une voix cruelle
« Hâte-toi vite, fils de Húrin, Odor Lomín. Les orques, sinon, pourraient y être avant toi une fois encore. Et si tu t'attardes à chercher Finduilas, tu ne reverras jamais plus Morwen, et jamais de ta vie tu ne verras Nienor, ta sœur, et elles te maudiront. »
Mais Turin filait déjà sur la route du nord, et Glaurung rit de rechef, car il avait accompli la mission du maître qui le commandait. Alors il s'adonna à ses propres délices, et il cracha ses flammes et brûla tout autour de lui. Mais tous les orques qui se livraient au pillage, il les chassa et les mit en déroute, les privant de tout leur butin jusqu'à la moindre babiole. Puis, il détruisit le pont et le jeta dans l'écume du Narog. Et ainsi à l'abri, il rassembla toutes les richesses de Felagund et les amoncela dans la dernière salle du palais. Puis, il se coucha sur son trésor et se reposa un temps. Cependant, Turin se hâta sur les chemins du nord, à travers les terres à présent désolées entre le Narog et le Teiglin, et le cruel hiver vint à sa rencontre. Car la neige tomba cette année-là, avant même la fin de l'automne, et le printemps fut tardif autant que froid. Toujours il lui semblait entendre les cris de Finduilas appelant son nom par les bois et par les collines, et il était au supplice. Mais poussé par les mensonges de Glaurung, constamment hanté par l'image des orques brûlant la maison de Húrin ou livrant Morwen et Nienor au tourment, il poursuivit sa route et n'en dévia jamais. Enfin, exténué par l'allure et la durée du voyage, car il avait marché plus de 40 lieues sans s'arrêter, il parvint lors des premières glaces de l'hiver aux fontaines d'Ivrin, là où auparavant il avait trouvé la guérison. Mais il n'y avait plus là qu'un bourbier gelé, et il ne pouvait plus y boire. Il franchit donc avec peine l'école du Dol Lomín dans la tourmente des neiges du nord, et regagna le pays de son enfance. Il trouva une terre morne et désolée, et Morwen était parti. Sa maison était là, vide et froide, en ruine, et nul signe de vie alentour. Turin se rendit alors chez l'orienté Broda, celui-là même qui avait pour épouse Aerin, de la famille de Húrin. Et là, un serviteur fort avancé en âge lui apprit que Morwen était partie depuis longtemps, car elle s'était enfuie du Dol Lomín avec Nienor, et seule Aerin savait où elles étaient allées. Lord Turin s'avança résolument à la table de Broda et se saisit de lui en tirant son épée, demandant à savoir où se trouvait Morwen. Sur quoi, Aerin lui déclara qu'elle était partie au Doriath afin de retrouver son fils. « Car le mal avait été chassé des terres, » dit-elle, « grâce au noir épée du sud qui est tombé depuis, à ce que l'on raconte. » Alors les yeux de Turin se dessillèrent, et les derniers liens du sortilège de Glaurung se rompirent. Et de détresse et de colère devant les mensonges qu'il avait fourvoyés, et de haine contre les oppresseurs de Morwen, il entra dans une fureur noire, et il terrassa Broda en sa propre maison, et d'autres orientaient de ses convives. Traqué, il se sauva dans le froid de l'hiver. Mais quelques rescapés du peuple de Hador, qui connaissaient bien la contrée, aidèrent sa fuite à travers le blizzard, jusqu'à un repère de hors-la-loi dans le sud des montagnes du Dol Lomín. Puis, il quitta de nouveau le pays de son enfance et retourna dans le val du Sirion, le cœur amer. Car au Dol Lomín, il n'avait apporté qu'un surcroît de malheur aux rescapés de son peuple, qui furent heureux de le voir partir. Un seul réconfort lui restait, en ce que, grâce aux exploits du Noir Épée,
les chemins du Doriath s'étaient ouverts à Morwen. Et il se prit à songer « Si mes actes ont été funestes, en cela au moins ils auront été bons. Et quand bien même je serais venu plus tôt, je n'aurais pu confier les miens en des mains plus sûres. Car si la ceinture de Méliane cède, c'en est fini de nos espoirs. Non, les choses sont mieux ainsi, car je jette une ombre partout où je vais. Que Méliane les garde, et je les laisserai vivre en paix pour quelque temps, loin de mon ombre. »
Or Turin descendit de Ered Wethrin et chercha en vain Finduilas, parcourant les bois avec défiance comme une bête sauvage au pied des montagnes. Et il s'embusqua sur toutes les routes qui menaient au nord vers la passe du Sirion. Mais il venait trop tard, car toutes les pistes étaient déjà anciennes ou effacées par l'hiver. Or voici que, suivant le cours du Teiglin vers le sud, il tomba sur des hommes de Brethil encerclés par des orques. Et il les délivra, car les orques s'enfuirent à la vue de Gurthung. Il se présenta comme un sauvage des bois, et les hommes le prièrent de rentrer avec eux dans leurs habitations, mais Turin répondit qu'il lui restait encore une mission à accomplir, qu'il cherchait Finduilas, la fille d'Orodreth de Nargothrond. Alors Dorlas, le chef de ses forestiers, lui annonça la terrible nouvelle. Car au passage du Teiglin, les hommes de Brethil avaient attendu la troupe d'orques qui escortait les captifs de Nargothrond, espérant ainsi les secourir. Mais les orques avaient aussitôt massacré les prisonnières, et Finduilas avait péri, cloué à un arbre, percé d'une lance. Elle avait crié de son dernier souffle « Dites au Mormegil que Finduilas est ici !» Il l'avait donc enseveli sous un tertre tout proche, qu'ils nommèrent Aud Eneleth, le tertre de la jeune elfe. Turin demanda à ses gens de l'y emmener. Là-bas, il s'effondra et sombra dans une torpeur si noire qu'il fut près de la mort. Dorlas comprit alors, à son épée couleur de jais dont la renommée était parvenue même au plus profond de Brethil, et à sa quête pour retrouver la fille du roi, que ce sauvage n'était autre que le Mormegil de Nargothrond, dont on disait qu'il était le fils de Urin du Dorlomin. Ainsi les forestiers le soulevèrent et le transportèrent à leurs habitations. Or elle se dressait derrière une palissade autour d'une éminence de la forêt, Efel Brandir, sur Lamon Obel, car le peuple de Haleth avait été décimé par la guerre, et leur chef Brandir, fils de Andir, était un homme placide. Infirme depuis l'enfance, il s'en remettait au secret pour garder les siens de la puissance du Nord plutôt qu'au fait d'armes. Il avait donc des raisons de craindre les nouvelles de Dorlas, et lorsqu'il contempla le visage de Turin couché sur le brancard, un sombre pressentiment envahit son cœur. Néanmoins, touché par son malheur, il le prit sous son propre toit et lui prodigua ses soins, étant doué pour guérir. Et avec le retour du printemps, Turin s'arracha aux ténèbres et retrouva la santé. Et lorsqu'il fut de nouveau sur pied, il résolut de demeurer caché à Brethil, laissant son ombre derrière lui et tournant le dos au passé. Il prit donc un nouveau nom, Turambar, c'est-à-dire « maître du destin » dans le parler haut elfique, et il implora les forestiers de ne plus le considérer comme un étranger et d'oublier qu'il eût jamais porté un autre nom. Il ne renonça pas pour autant à tous les faits de guerre, car il lui était impensable de laisser courir les orques au passage du Teiglin ou près de Aud Eneleth, et il leur fit redouter ce lieu, qu'ils évitaient avec effroi. Mais il rangea sa noire épée, maniant plutôt l'arc et la lance. Or le Doriath reçut bientôt des nouvelles fraîches de Nargothrond, car de ceux qui avaient survécu à la défaite et au saccage, puis échappé au cruel hiver dans la solitude des terres, il y en eut quelques-uns, qui vinrent enfin chercher refuge auprès de Thingol. Et ses gardes frontaliers les conduisirent devant le roi. D'aucuns dirent que l'ennemi s'était entièrement replié vers le nord, mais d'autres que Glaurung gîtait dans les halles de Felagund. D'aucuns rapportèrent que Mormegil s'était fait tuer, et d'autres que le dragon l'avait ensorcelé et qu'il se tenait encore là-bas comme changé en pierre. Mais au dire de tous, il avait fini par se savoir que celui qu'on appelait Mormegil à Nargothrond n'était autre que Turin, fils de Urin du Dorlomin. Ces récits bouleversèrent Morwen, qui, contre l'avis de Méliane, partit seul à cheval pour retrouver son fils ou découvrir la vérité sur son sort. Fingol envoya donc Mablung après elle, entourée de valeureux gardes-frontières, afin qu'il la trouve et la protège, et pour recueillir des nouvelles s'il en était. Mais Nienor fut priée de demeurer à Menegroth. Or, elle avait hérité de la hardiesse des siens, et par malheur, espérant faire revenir sa mère en s'exposant au même danger qu'elle, Nienor revêtit la livrée des gens de Fingol et prit part à cette chevauchée. Ils retrouvèrent Morwen près des berges du Sirion, et Mablung la supplia de rentrer à Menegroth. Mais Morwen ne se dominait plus, et elle n'y voulut rien entendre. Nienor se révéla sur ses entrefaites, et malgré l'injonction de sa mère, ne voulut pas rentrer. Lors, Mablung n'eut d'autre choix que de les mener aux embarcations dissimulées au bord des mares du crépuscule, où ils purent franchir le Sirion. Et après 3 jours de voyage, ils rejoignirent Amon Ethir, la colline des espions, que Felagund avait fait ériger autrefois à grand labeur, à 1 lieue des portes de Nargothrond. Là, Mablung fit entourer Morwen et sa fille d'un cercle de cavaliers, et il leur interdit d'aller plus loin. Mais comme du haut de cette colline, il ne voyait pas le moindre ennemi, avec ses éclaireurs, il descendit vers le Narog aussi précautionneusement que possible. Mais Glaurung avait épié tous leurs mouvements, et bouillant de colère, il sortit et s'allongea dans le cours d'eau, duquel monta une grande vapeur et un vent méphitique qui assaillirent Mablung et ses compagnons, soudain aveuglés et désorientés. Puis Glaurung passa à l'est du Narog. Les gardes sur l'Amon Ethir, devant l'assaut du dragon, voulurent fuir vers l'est en toute célérité avec Morwen et Nienor. Mais le vent amena sur eux le brouillard blanc, et le relent du dragon affola leurs chevaux qui s'emballèrent, courant de tous côtés, sans pouvoir être maîtrisés. Certains des cavaliers furent jetés contre les arbres et périrent, d'autres furent emportés au loin. On perdit alors toute trace des 2 femmes, et du sort de Morwen, le Doriath n'apprit jamais rien de sûr. Quant à Nienor, désarçonnée par sa monture mais indemne, elle regagna l'Amon Ethil pour y attendre Mablung. Elle s'éleva au-dessus de la nuée dans la lumière du soleil, puis ses regards se tournèrent vers l'ouest et rencontrèrent les yeux du dragon Glaurung, dont le menton reposait sur le sommet de la colline. Sa volonté lutta un temps contre la sienne, mais il mit son pouvoir à l'œuvre, et ayant appris qui elle était, il la força à plonger ses yeux dans les siens, et il jeta sur elle un sortilège de ténèbres et d'oubli complet, de sorte qu'elle ne put rien se rappeler de toute sa vie, ni son propre nom, ni celui d'aucune autre chose, et pendant des jours elle ne put ni entendre, ni voir, ni remuer de son propre chef. Alors Glaurung la laissa seule, debout, sur l'Amon Ethir, et il rentra à Nargothrond. Or, Mablung, qui avait eu l'insigne audace d'explorer les halles de Felagund en l'absence du dragon, les fuit aussitôt à son approche, et il regagna l'Amon Ethil. Le soleil venait de sombrer, et la nuit tombait, lorsqu'il parvint en haut de la colline, et il n'y trouva personne, sauf Nienor qui se tenait seule, debout sous les étoiles, comme une image de pierre. Elle ne disait mot, et n'entendait mille. Mais elle le suivait s'il lui prenait la main. En grande peine, il l'emmena donc, encore que cela lui parût vain, car ils étaient condamnés à périr tous deux, sans aucun secours, au milieu des terres sauvages. 3 des compagnons de Mablung les découvrirent néanmoins, et ils remontèrent lentement au nord et à l'est, vers les barrières du Doriath, sur l'autre rive du Sirion, et le pont gardé près de son confluent avec les Sgalduin. Tandis qu'ils approchaient du Doriath, Nienor reprenait peu à peu des forces, mais elle ne pouvait encore parler ni entendre et marchait comme une aveugle qu'il fallait conduire. Or, comme ils approchaient des barrières, ses yeux vides se fermèrent enfin et elle voulut dormir. Et ils la firent étendre et se reposèrent eux aussi, relâchant leur vigilance, complètement épuisés. Là, une bande d'orques les assaillit comme on en voyait souvent désormais, rôdant près des frontières, aussi loin qu'il l'osait. Mais Nienor à ce moment retrouva la vue et l'ouïe, et les cris des orques la réveillèrent
et la firent bondir d'épouvante, et elle se sauva avant qu'ils fussent parvenus à sa hauteur. Alors les orques la prirent en chasse, mais les elfes se mirent à leurs trousses et les rattrapèrent avant qu'ils eussent pu lui faire du mal. Toutefois Nienor leur échappa, car elle déguerpit dans une folle terreur, plus vive qu'une biche, et arrachant tous ses vêtements dans sa course, jusqu'à se trouver nue. Et elle passa hors de vue, fuyant vers le nord, et les elfes, malgré de longues recherches, ne la trouvèrent point, ni aucune trace de son passage. Enfin Mablung, au désespoir, rentra à Menegroth et fit part de ses nouvelles. Thingol et Melian en conçurent une grande peine, mais Mablung repartit aussitôt et chercha longtemps, en vain, des nouvelles de Morwen et de Nienor. Entre-temps, Nienor courut dans les bois jusqu'à épuisement, et elle s'effondra, dormit et se réveilla. Au matin, le soleil brillait et elle se réjouit de la lumière comme d'un bien nouveau et précieux, et toutes choses alentour lui paraissaient neuves et singulières, car elle ne leur connaissait aucun nom. Elle ne se souvenait de rien, sinon d'un néant de ténèbres derrière elle, une ombre d'effroi. Elle alla donc avec crainte comme une bête traquée, et eut bientôt grand faim, car elle était sans nourriture et ne savait comment s'en procurer. Mais trouvant enfin les passages du Teiglin, elle franchit la rivière afin de trouver refuge sous les grands arbres de Brethil, car elle avait peur, et il lui semblait que les ténèbres qu'elle avait fuies menaçaient de la rattraper. Or, c'était une nuée orageuse qui arrivait du sud. Prise de frayeur, elle se laissa choir sur le tertre de Ordn en Eleth, se bouchant les oreilles pour chasser le tonnerre. Mais la pluie la fouetta et la trempa, et elle resta étendue comme un animal qui se meurt. C'est à cet endroit que la trouva Turambar, alors qu'il descendait sur les passages du Teiglin à la rumeur d'orques rôdant dans les parages. Et lorsqu'un ciel fulgurant lui révéla le corps d'une jeune femme gisant comme morte sur le tertre de Finduilas, il fut frappé au cœur. Mais les forestiers la soulevèrent, et Turambar jeta son manteau sur ses épaules, et ils la portèrent à une case tout près de là, où elle put se réchauffer et se nourrir. Et sitôt qu'elle posa les yeux sur Turambar, elle se sentit réconfortée, car il lui semblait avoir enfin trouvé ce qu'elle avait tant cherché dans les ténèbres d'avant. Et elle ne voulut plus se séparer de lui. Mais lorsqu'il lui demanda son nom et l'interrogea sur sa famille et sa mésaventure, elle se troubla comme une enfant qui comprend qu'on lui demande quelque chose sans savoir ce que cela peut être, et elle pleura. Alors Turambar lui dit « Ne sois pas en peine, l'histoire attendra, mais je te donnerai un nom, et je t'appellerai Niniel, fille des larmes. » Et à ce nom, elle secoua la tête, mais elle dit « Niniel ». Ce fut le premier mot qu'elle prononça après son retour des ténèbres, et tel fut désormais son nom parmi les forestiers. Le jour suivant, ils portèrent Niniel vers Efelbrandir. Mais en arrivant à Dimrost, les marches de la pluie, où les eaux tumultueuses du Celebros plongeaient vers le Teiglin, un grand frisson la saisit. Et à compter de ce jour, on nomma cet endroit Nengirith, l'eau frissonnante. Avant qu'ils eussent atteint la demeure des forestiers sur l'Amon Obel, elle était consumée de fièvre, et elle resta longtemps alitée de la sorte, soignée par les femmes de Brethil, qui lui apprirent à parler comme à une enfant. Mais avant la venue de l'automne, grâce au don de Brandir, elle guérit de sa maladie et retrouva la parole. Toutefois, elle n'avait aucun souvenir d'avant le jour où Turambar l'avait trouvée sur le tertre de Ordn en Eleth. Et Brandir l'aimait, mais le cœur de la jeune fille était tout dévoué à Turambar. Les forestiers en ce temps-là n'étaient pas inquiétés par les orques. Turambar n'allait pas en guerre, et Brethil était en paix. Son cœur se tourna vers Niniel, et il la demanda en mariage. Mais elle différa pour cette fois, malgré l'amour qu'elle lui portait. Car Brandir eut un mauvais pressentiment et chercha à l'en dissuader, par égard pour elle plutôt que pour lui-même, ou par rivalité avec Turambar, et il lui révéla que Turambar se nommait Turin, fils de Urin. Et bien que ce nom fût inconnu de Niniel, une ombre troubla son esprit. Mais quand 3 années se furent écoulées depuis le sac de Nargothrond, Turambar demanda de nouveau sa main à Niniel et jura qu'il l'épouserait cette fois, sans quoi il retournerait à la guerre dans les solitudes. Et Niniel accepta avec joie, et leur union fut consacrée au jour de la mi-été, et les forestiers du Blethil leur firent une grande fête. Mais avant la fin de l'année, Glaurung envoya contre Blethil des orques qui étaient sous son empire. Et Turambar resta chez lui à ne rien faire, car il avait promis à Niniel qu'il ne se battrait plus que pour défendre leur maison. Mais les forestiers furent défaits, et Dorlas l'accabla de reproches pour n'avoir pas voulu aider ceux qu'il avait choisis pour siens. Alors Turambar se leva et ressortit sa noire épée. Bon nombre d'hommes de Blethil se rallièrent à lui, et leur victoire contre les orques fut sans appel. Mais Glaurung apprit par là que le noir épée se trouvait à Blethil, et il médita sur sa découverte et imagina de nouveaux forfaits. Niniel conçut au printemps suivant, et elle se fit pâle et hâve. Au même moment, parvenaient à Eiffelbrandir les premières rumeurs disant que Glaurung était sorti de Nargothrond. Turambar envoya alors des éclaireurs, car à présent il ordonnait tout selon son vouloir, et Brandir n'était plus guère écouté. À l'approche de l'été, Glaurung s'avança aux confins de Blethil, sur les rives occidentales du Teiglin, et une grande peur s'empara des gens de la forêt, car il devenait manifeste que le Grand Ver était venu les assaillir et ravagerait leurs terres, qui n'étaient pas que de passage, en route pour Angband comme il l'avait espéré. Aussi cherchèrent-ils conseil auprès de Turambar, et celui-ci avisa qu'il serait vain de marcher contre Glaurung de toute leur force, et que seule la ruse et la bonne fortune permettraient de le vaincre. Il offrit donc d'aller lui-même à la recherche du dragon aux confins du pays, intimant aux autres de rester à Eiffelbrandir, mais de se préparer à fuir. Car si Glaurung remportait la victoire, il se rendrait en premier lieu aux habitations des forestiers pour les anéantir, et ceux-ci ne pouvaient espérer lui résister. Mais s'ils se dispersaient aux quatre vents, nombre d'entre eux pouvaient espérer en réchapper, car Glaurung ne ferait pas résidence à Blethil et aurait tôt fait de retourner à Nargothrond. Lors, Turambar demanda des volontaires pour l'accompagner dans sa périlleuse entreprise, sur quoi Dorlas s'avança, et nul autre. Alors Dorlas les réprouva et fit outrage à Brandir, qui ne pouvait tenir le rôle qui lui était échu en tant qu'héritier de la maison de Haleth. Et Brandir se vit humilié devant les siens et en garda rancœur. Mais Unthor, un parent de Brandir, demanda la faveur d'y aller à sa place. Lors, Turambar fit ses adieux à Niniel, pleine de craintes et de sinistres appréhensions, et leur séparation fut douloureuse. Mais Turambar partit pour Nengirith avec ses deux compagnons. Lors, les craintes de Niniel se firent si vives qu'elle n'y put tenir. Et refusant de se murer dans l'Eiffel pendant que se jouait le sort de Turambar, elle se mit à ses trousses, suivie d'un grand concours de peuple. Brandir n'en fut que plus troublé encore et voulut les dissuader de leur imprudence, mais personne ne l'écouta. Il abdiqua alors sa charge et tout l'amour qu'il pouvait porter à qui le méprisait. Et n'ayant plus rien que son amour pour Niniel, il ceignit une épée et la voulut rejoindre, quoique, étant infirme, il resta fort en arrière. Or, au coucher du soleil, Turambar parvint à Nengirith, où il apprit que Glaurung était allongé sur les hautes berges du Teiglin et enclin à se mouvoir à la nuit tombée. C'était de bon augure, selon lui, car le dragon se trouvait à Kabed en Arras, où la rivière coulait au fond d'une gorge étroite, mais très profonde, qu'un cerf pris en chasse eût pu franchir d'un bond. Et Turambar résolut de ne pas chercher plus loin et d'essayer de franchir cette gorge. Il comptait s'y rendre à la faveur du crépuscule, descendre à la nuit au fond du ravin, puis braver les eaux sauvages avant de gravir l'autre berge pour surprendre le dragon par le dessous. Il tint ferme à sa résolution, mais le cœur manqua à Dorlas lorsqu'ils atteignirent les rapides du Teiglin dans l'obscurité, et il n'osa pas entreprendre leur périlleuse traversée, mais alla se terrer dans un bosquet à sa grande honte. Turambar et Unthor traversèrent néanmoins sans incident, car le rugissement des eaux couvrait tous les autres bruits, et Glaurung dormait. Mais avant la minuit, le dragon remua et avec grand fracas, il jeta sa partie antérieure en travers du gouffre et se mit à ramper traînant sa masse derrière lui. Turambar et Unthor manquèrent d'effaillir dans la chaleur et le relent alors qu'ils tentaient par tous les moyens de remonter jusqu'à lui. Et Unthor fut emporté par une grosse pierre délogée du haut de la paroi par le passage du dragon. Elle le frappa à la tête et le jeta dans la rivière. Ainsi finit ce noble cœur de la maison de Haleth, non le moins valeureux. Lors, Turambar rassembla toute sa volonté et son courage et gravit seul le précipice jusque sous les entrailles du dragon. Il tira alors Gurthung et de toute la force de son bras et de sa haine l'enfonça dans le ventre mou du ver et ce jusqu'à la garde. Mais quand Glaurung en sentit la mortelle piqûre, il eut un rugissement et un terrible spasme, et il souleva toute sa masse et se projeta de l'autre côté du gouffre, où il resta étendu, se tortillant et se roulant convulsivement. Et dans ses affres, il sema la ruine dans les alentours et les enflamma, jusqu'à ce que ses feux s'éteignissent, et alors il ne bougea plus. Or, le spasme de Glaurung avait arraché Gurthung de la main de Turin, et l'épée était restée fichée dans le ventre du dragon. Turambar franchit donc l'eau une seconde fois, désirant recouvrer sa lame et contempler son adversaire. Et il le trouva étendu de tout son long et tourné sur le côté, la garde de Gurthung encore bien visible. Lors, Turambar saisit la garde à deux mains et posa le pied sur le ventre du dragon, et il le railla et s'exclama en dérision de ses paroles à Nargothrond. « Salut à toi, ver de Morgoth, heureuse retrouvaille. Meurs à présent, et que les ténèbres t'emportent. Turin, fils de Urin, a tiré sa vengeance. » Il arracha alors l'épée, mais un jet de sang noir jaillit aussitôt sur sa main, et le venin le brûla. Sur ce, Glaurung ouvrit les yeux, et darda sur Turambar un regard si magnifique qu'il en sentit le choc. Et ce coup s'ajoutant à l'effet du poison, le plongea dans une noire torpeur, et il tomba comme mort, couché sur son épée. Les cris de Glaurung avaient porté à travers les bois jusqu'aux oreilles de ceux qui attendaient Anengirith. Et lorsque les guetteurs les entendirent et virent au loin le ravage et l'incendie causé par le dragon, ils crurent à son triomphe, pensant qu'il était occupé à détruire ses assaillants. Et Niniel était là, assise près de la chute d'eau, secouée de frissons, et la voix de Glaurung ramena les ténèbres sur elle, si bien qu'elle ne put dès lors s'arracher de ce lieu par sa seule volonté. Brandir la trouva pourtant, car il parvint enfin à Nengirith, claudiquant avec effort. Et lorsqu'on lui apprit que le dragon avait franchi le torrent et écrasé ses adversaires, son cœur se tourna vers Niniel avec compassion. Toutefois, il se dit aussi, « Turambar est mort, mais Niniel vit. Peut-être voudra-t-elle me suivre à présent, et je pourrai l'emmener. » Ainsi nous échapperons au dragon ensemble. » Au bout d'un moment donc, il s'approcha de Niniel et lui dit, « Viens, il est temps de s'en aller. Si tu le veux bien, je te conduirai. » Et il lui prit la main, et elle se leva, et sans un mot le suivit, et nul ne les vit partir au milieu des ténèbres. Mais comme il descendait le sentier menant au passage du Teiglin, la lune se leva et inonda le pays d'une lueur grise, et Niniel demanda, « Est-ce là le chemin ?» Et Brandir répondit qu'il n'en voyait pas, que le seul chemin était de fuir Glaurung pour chercher refuge dans les terres sauvages. Mais Niniel dit, « Le noir épée était mon bien-aimé et mon époux. C'est seulement pour le retrouver si je m'en vais. Que croyais-tu donc ?» Et elle se hâta en avant. Aux environs des passages du Teiglin, elle aperçut le Haud-en-Heleth dans la blancheur du clair de lune, et elle fut saisie d'épouvante. Alors elle se détourna avec un cri, et jetant son manteau, s'enfuit vers le sud, le long de la rivière, et son vêtement blanc miroitait sous la lune. Brandir put donc l'apercevoir du haut de la colline, et il bifurqua pour aller la rejoindre, mais il traînait toujours derrière elle quand elle arriva à la dévastation de Glaurung au bord de Kabed en Arras. Elle vit le corps du dragon étendu là, mais elle n'en tint aucun compte, car un homme gisait à ses côtés. Et elle courut jusqu'à Turambar et appela en vain son nom. Voyant alors sa main brûlée, elle la baigna de ses pleurs et la banda avec un morceau de sa robe. Et elle l'embrassa et lui cria encore de se réveiller.
sur quoi Glaurung remua pour la dernière fois avant de mourir, et il parla de son dernier souffle, disant
« Salut à toi, Nienor, fille de Hurin. Nous nous rencontrons une dernière fois avant la fin. Je te donne la joie d'avoir enfin retrouvé ton frère, car maintenant tu le reconnaîtras. Un meurtrier qui tue dans l'ombre, sournois envers ses ennemis, sans loyauté pour ses amis, une malédiction pour sa famille, Turin, fils de Hurin. Mais son plus noir forfait, tu l'éprouveras en toi-même. »
Alors Glaurung mourut, et le voile de sa malfaisance se détacha d'elle, et elle se souvint de chaque jour de sa vie. Baissant ses regards sur Turin, elle s'écria
« Adieu, ô mon amour, deux fois bien-aimé.
A Turin Turambar, Turun Ambartanen,
maître du destin dont le destin s'est rendu maître, ô bienheureux d'être mort. »
L'or, Brandir, qui avait tout entendu, frappé de stupeur au bord de la dévastation, se hâta vers elle. Mais elle se sauva de lui en courant, saisie d'horreur et d'un profond tourment, et parvenue au bord du gouffre de Kabed en Arras, elle s'y jeta, et les eaux l'emportèrent. Et Brandir, arrivant, regarda en bas, puis se détourna avec horreur. Et s'il ne désirait plus vivre, il ne pouvait néanmoins se donner la mort dans ces eaux rugissantes. Et jamais plus les yeux d'un homme ne se posèrent sur Kabed en Arras, et ni bête ni oiseau ne s'y rendait, et nul arbre n'y poussait. Et on le nomma Kabed Nairamarth, le sceau du terrible destin. Mais Brandir reprit le chemin de Nengirith pour informer les siens de ce qui s'était passé, et il rencontra Dorlas dans les bois et le tua, le premier sang qu'il eut jamais versé, et le dernier. Et lorsqu'il parvint à Nengirith, on lui cria
« L'as-tu vu ? Car Niniel est parti. »
Et il répondit
« Niniel est parti pour toujours. Le dragon est mort, Turambar aussi, et ce sont là de bonnes nouvelles. »
À ces mots, un murmure s'éleva parmi le peuple, disant qu'il était fou. Mais Brandir reprit
« Écoutez-moi jusqu'au bout. Niniel, la bien-aimée, est morte elle aussi. Elle s'est jetée dans le Teiglin, n'ayant plus désir de vivre, car elle a découvert qu'elle était nul autre que Nienor, fille de Hurin du Dorlomin, avant que l'oubli la prenne, et que Turambar était son frère, Turin, fils de Hurin. »
Mais au moment où il se taisait, devant une foule en pleurs, Turin lui-même parut devant eux. Car à la mort du dragon, sa torpeur l'avait quitté, et d'extrême lassitude, il avait sombré dans un profond sommeil. Mais le froid de la nuit avait troublé son repos, et la garde de Gurthung lui labourait le flanc et l'avait réveillé. Alors il vit que quelqu'un lui avait bandé la main, et il se demanda bien pourquoi on l'avait laissé ainsi, étendu sur le sol glacé. Et il appela à l'aide, mais comme personne ne lui répondait, il dut chercher secours lui-même, car il était épuisé et mal en point. Mais quand la foule l'aperçut, elle recula avec crainte, croyant que c'était son esprit tourmenté, et il dit
« Non, réjouissez-vous, car le dragon est mort et je suis en vie. Mais pourquoi avoir dédaigné mon conseil et vous être mis en danger? Et où est Niniel? Car c'est elle que je veux voir. J'ose espérer qu'elle n'aura pas quitté la maison. »
Brandir reconnut que c'était bien le cas et que Niniel était morte. Mais l'épouse de Dorlas s'écria
« Non, seigneur, il a perdu l'esprit, car il est arrivé ici en disant que vous étiez mort et que c'était une bonne nouvelle, mais vous êtes vivant. »
Lors, Turambar se mit en colère, croyant que Brandir ne parlait ou n'agissait jamais que par malveillance envers lui et Niniel, jaloux de leur amour. Et il lui parla méchamment et l'appela Piébo. Alors Brandir raconta tout ce qu'il avait entendu, proclamant que Niniel était Nienor, fille de Hurin, et il lui jeta à la tête les dernières paroles de Glaurung, disant qu'il était une malédiction pour sa famille et pour tous ceux qui lui prêtaient asile. Alors Turambar entra en furie, car il reconnaissait dans ses mots la foulée de son destin qui le rattrapait, et il accusa Brandir d'avoir conduit Niniel à la mort et de se faire une joie de publier les mensonges de Glaurung s'il ne les avait pas inventés. Alors il maudit Brandir, puis il le tua. Et il s'éloigna de la foule
et s'enfuit dans les bois. Mais quelque temps plus tard, sa folie le quitta, et il gagna le Odd and Eleth et s'assit sur l'herbe. Et là, il médita sur toutes ses actions. Et il implora Finduilas de lui porter conseil, car il se demandait quel mal il pourrait encore causer, et lequel serait le plus grand s'il allait retrouver ses proches au Doriath, ou s'il les abandonnait à jamais en allant chercher la mort à la guerre. Et alors même qu'il se tenait là, Mablung franchit les passages du Teiglin avec une compagnie d'elfes gris. Il reconnut Turin et le salua, plus qu'heureux de le trouver encore en vie, car il avait eu vent de la sortie de Glaurung et de sa venue à Brethil, et avait également entendu dire que le noir épée de Nargothrond y était désormais établi. Il venait donc pour le mettre en garde et lui prêter main forte si nécessaire. Mais Turin lui dit « Tu arrives trop tard. Le dragon est mort. » Les elfes stupéfaits le couvrirent de louanges, mais il n'en fit aucun cas et dit « Je ne demande qu'une chose, des nouvelles de mes proches, car j'ai appris aux Dorlomines qu'elles avaient fui au royaume caché. » Alors Mablung se rembrunit, et il fut bien en peine de lui raconter comment Morwen avait disparu, et quel sortilège avait conduit Nienor à l'oubli et au mutisme, et comment elle leur avait échappé aux frontières du Doriath avant de fuir dans le nord. Alors Turin comprit enfin que son destin l'avait rattrapé, et qu'il avait tué Brandir injustement. Ainsi, les paroles de Glaurung s'étaient-elles accomplies à travers lui. Il eut un rire dément, et il s'écria « La plaisanterie est certes cruelle !» Mais il chassa Mablung, le renvoyant au Doriath, qu'il maudit maintes fois. « Et maudite soit ta mission » cria-t-il. « Cela seul manquait. Voici venir la nuit. » Sur ce, il se sauva, vif comme le vent, et ils restèrent interdits, se demandant quelle folie le prenait. Et ils le suivirent. Mais Turin les distança de beaucoup, et il parvint à Kabed en Arras, et entendit le grondement de l'eau, et vit toutes les feuilles qui tombaient flétries au pied des arbres, comme si l'hiver était venu. Là, il tira son épée, la seule chose qui lui resta en propre. Et il dit « Salut, Gurthang, toi qui ne connais ni seigneur ni loyauté, hors la main qui te tient. Tu ne refuses aucun sang. Prendras-tu donc celui de Turin Turambar? Me tueras-tu promptement ?» Et de la lame s'éleva une voix glacée qui répondit « Oui, je boirai volontiers de ton sang, afin d'oublier le sang de Beleg, mon maître, et le sang de Brandir, injustement tué. Je te tuerai promptement. » Lors, Turin planta la garde en terre et se jeta sur la pointe de Gurthang, et la lame noire prit sa vie. Mais Mablung et les elfes arrivant, ils contemplèrent la forme inerte de Glaurung, puis le corps de Turin, et ils s'affligèrent. Et lorsque des hommes de Brethil les rejoignirent et leur firent apparaître les causes de la folie de Turin et de sa mort, ils furent glacés d'horreur. Et Mablung eut ces paroles amères. « J'ai eu part, moi aussi, au destin des enfants de Urin, et voici qu'avec mes paroles, j'ai tué celui que j'aimais. » Ils soulevèrent alors Turin et virent que Gurthang s'était brisé en deux. Mais elfes et hommes firent grande provision de bois, et ils dressèrent là un immense bûcher, et le dragon fut réduit en cendres. Turin fut enseveli sous un grand tertre à l'endroit où il était tombé, et on déposa les fragments de Gurthang auprès de lui. Et quand tout fut terminé, les elfes chantèrent un traîne en mémoire des enfants de Urin, et l'on hissa une grande pierre grise sur le tertre, sur laquelle fut gravé, en runes du Doriath, Turin Turambar Dagnir Glaurunga. Et au-dessous, ils inscrivirent Nienor Niniel. Mais elle n'y était pas, et nul ne sut jamais où les eaux froides du Teiglin l'avaient emportée.